France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Après la publication hier soir de vidéos choquantes sur le comportement délibérément guerrier de gendarmes lors des manifestations de Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur réclame l'ouverture d'une enquête administrative. À suivre également le signal d'alarme assourdissant que représente le cambriolage au musée du Louvre selon un rapport de la Cour des comptes rendu ce matin. On écoutera le témoignage ému de la sœur de Cécile Collère, tandis que les autorités françaises disent toujours travailler sans relâche pour sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que celle de son compagnon Jacques Paris. Enfin, avec notre invité, on se demandera jusqu'à quel point la prochaine COP représente ou non la dernière chance pour la diplomatie climatique. C'était le 25 mars 2023. Ce jour-là, autour du chantier d'une réserve d'eau agricole à Sainte-Soline, un rassemblement interdit de militants écologistes avait donné lieu à de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, causant des dizaines de blessés de part et d'autre, dont certains grièvement. Or, hier soir, Libération et Mediapart ont publié des vidéos de cette journée révélant un usage désinhibé de la force par les gendarmes, encouragé par des consignes prohibées et même dangereuses données par la hiérarchie. Au point que ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, n'a eu d'autre choix que de condamner les propos inacceptables et les gestes non réglementaires tenus par des gendarmes. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Ces vidéos inédites et choquantes proviennent, Anne, des caméras piétons des gendarmes.
Oui, le quotidien Libération et le site d'information Mediapart ont eu accès à des dizaines d'heures d'images captées ce 25 mars 2023 par les caméras piétons des gendarmes, des images rassemblées dans le cadre d'une enquête préliminaire pour violence aggravée et non-assistance à personne en danger, ouverte par le parquet de Rennes et confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale après plusieurs plaintes déposées par des manifestants. Rapidement, on entend des voix qui ordonnent des tirs tendus, des tirs à l'horizontale, formellement interdits car ils peuvent mutiler les corps.
Les gars, on s'en vue, ça va, putain, mais qu'est-ce que vous attendez, bordel ? On va faire des tirs tendus, putain !
Libération assure avoir entendu cette consigne de tir tendu dans 9 des 15 escadrons de gendarmerie mobile mobilisés ce jour-là, mais on entend aussi dans le langage des gendarmes une forme de volonté de blesser visiblement gravement des manifestants et la satisfaction qu'ils en tirent. Voici un autre extrait.
T'as remis une GMD dans les couilles à un mec ?
Par contre, je compte plus les mecs qui ont des bras.
Il faut leur tirer dans la gueule.
Lui, il faut lui faire un tir tendu de LG, là, dans la gueule.
Ah, je vais mettre des coups de bâton plein de tête,
gros. Un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars.
Ah ouais ?
Oh là là.
Je m'attendais à ce que ce soit bien, mais pas autant. On n'a jamais autant tiré de notre life. Un vrai kiff, je suis au Nirvana. Là, on est sur l'Everest de la mobile, lancent aussi d'autres militaires. Plus de 5000 tirs de grenades lacrymogènes, dont la GM2L, une grenade considérée comme une arme de guerre, avait été envoyée lors de cette manifestation côté forces de l'ordre en réponse aux pierres, cocktails Molotov et mortiers d'artifice des manifestants.
Et ce matin, Anne, le ministre de l'Intérieur a donc demandé l'ouverture d'une enquête administrative.
Oui, enquête administrative qui a été aussitôt ouverte et confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Elle pourrait durer plusieurs semaines. Le ministre de l'Intérieur reconnaît des gestes qui manifestement ne sont pas réglementaires, mais il a refusé de parler de violences policières. Chloé Chalot, l'avocate des 4 personnes blessées qui ont porté plainte, dénonce, elle, des comportements qui sont évidemment des infractions pénales et qui doivent être envisagées comme telles, pas seulement sous un angle administratif. Les blessés réclament désormais l'ouverture d'une information judiciaire.
Merci Anne Fauquemberg. Au lendemain de la remise aux autorités françaises à Téhéran de Cécile Collère et Jacques Paris, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot assure travailler sans relâche pour leur libération immédiate et inconditionnelle, tout en précisant n'avoir aucune certitude concernant un quelconque calendrier. Et en attendant, Noémie, la sœur de Cécile Collère, a accepté de se confier ce matin à Valérie Crova, lui a livré ses premiers sentiments en même temps que ses espoirs de revoir sa sœur le plus vite possible.
C'est extraordinaire en fait de pouvoir enfin leur parler librement. C'est assez fou, mais on n'a tellement plus l'habitude de se dire qu'on peut s'appeler comme ça, que voilà, c'est pareil, c'est une espèce d'automatisme qui va revenir, mais qui n'est pas encore tout à fait là pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, elle a un téléphone aujourd'hui et on peut échanger directement, s'envoyer des petits mots, s'envoyer des photos.
Que vous a dit Cécile une fois que vous avez pu lui parler lorsqu'elle est arrivée à l'ambassade de France? C'est quoi ses premiers mots?
Ses premiers mots, ça a été de dire qu'elle était heureuse, qu'elle était soulagée. Quand elle est arrivée à l'ambassade, elle était vraiment, vraiment soulagée. Enfin, elle m'a dit ça, les larmes sont montées à ce moment-là. Et qu'elle était vraiment heureuse, surtout d'être à nouveau avec Jacques, à nouveau réunie avec Jacques. En tout cas, voilà, elle a dit qu'ils se sont énormément battus, qu'ils se sont battus pour tenir bon, que ça a été vraiment très dur. Mais voilà, maintenant, ils sont soulagés. On aimerait les prendre dans nos bras le plus vite possible, mais on n'a absolument aucune indication sur la suite. C'est effectivement important de rappeler qu'ils ne sont pas libres, qu'ils n'ont pas été libérés en tant que tels et qu'ils sont réellement libres quand ils seront de retour en France.
Voilà, témoignage recueilli par Valérie Crovin. 3 semaines après le vol retentissant des joyaux de la couronne, la Cour des comptes publiait ce matin un rapport prévu de longue date sur le Louvre, mais forcément d'autant plus attendu après le cambriolage, donc dans le plus célèbre musée du monde. Des recommandations qui font écho d'ailleurs aux premières conclusions de l'enquête administrative confiée à l'inspection générale des affaires culturelles. Emma Vogli-Maxi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à la remise de ce rapport ce matin, dont les conclusions sont sévères. Très mauvaise gestion du budget. Les sages estiment que la direction n'a pas fait les bons choix en priorisant l'achat de nouvelles œuvres à tout le reste et notamment à sa sécurité.
Oui, devant une salle remplie de journalistes, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a pointé du doigt une très mauvaise gestion des comptes du musée. Il estime que le Louvre ne s'est pas concentré sur les bons projets à développer.
Nous constatons qu'au cours des dernières années, puisque notre rapport porte sur la période 2018-2024, ont été privilégiés dans les investissements du Louvre, des opérations de réaménagement de certaines salles, mais aussi une politique d'acquisition d'œuvres d'art, le tout représentant sur les ressources propres du Louvre quelques 160 millions d'euros.
Résultat, sa sécurité a été impactée car elle a trop été laissée de côté.
On a dépensé que 4% du schéma qui a été tardivement prévu, qui représente 87 millions d'euros, on a dépensé 3 millions d'euros. Et donc nous appelons à une prise de conscience et une forme de rééquilibrage.
Et ce n'est pas faute de moyens, rappelle le président de la Cour des comptes.
Le paradoxe, c'est que le Louvre a de l'argent. Personne ne peut dire que le Louvre serait victime d'une insuffisance de ses moyens ou d'une paupérisation. Il a par exemple une trésorerie de 268 millions d'euros. Mais en même temps, sa trajectoire n'est pas soutenable parce qu'on a mis en face des investissements qui doivent coller avec les dites ressources et qui doivent en plus être hiérarchisés. Donc commençons par hiérarchiser les investissements, mettons en face une trajectoire qui soit soutenable pour l'avenir.
De son côté, le Louvre dit accepter les recommandations de la Cour, mais estime que le rapport méconnaît plusieurs de leurs actions. Selon la direction du musée, pour que ce rapport soit vraiment équilibré, il faudrait qu'il soit effectué sur du temps long.
Merci Emma Vogli-Maxi ainsi qu'à Benjamin Troncin pour les moyens techniques.
Le gouvernement a annoncé hier qu'il engageait une procédure de suspension de la plateforme en ligne Shein.
Oui, et ce le jour même de l'inauguration de son premier magasin au monde à Paris et après l'ouverture d'une enquête pour la vente de poupées à caractère pédopornographique. Le géant asiatique a 48 heures pour retirer les produits interdits de son site, sans quoi une réquisition numérique pourra être ordonnée permettant aux autorités d'exiger la suspension du site internet. Mais la menace ne s'arrête pas là, puisque Paris demande par ailleurs à la Commission européenne de sévir. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, la France a saisi l'Europe pour engager une enquête et prononcer des sanctions adaptées.
Effectivement, c'est déjà une menace qu'a brandie la Commission européenne il y a 6 mois, à la suite de plusieurs enquêtes menées en Belgique, en France, en Irlande et aux Pays-Bas. Les griefs sont nombreux, des pressions à la vente avec des annonces de faux délais d'achat aux fausses remises en passant par des étiquettes trompeuses et surtout des problèmes de sécurité liés aux produits vendus. Selon l'eurodéputé centriste et libéral belge Yvan Verhoekstraet, la réponse doit être avant tout européenne.
Aucune autorité nationale ne peut régler cela seule. Si chacun agit de son côté, l'entreprise contournera les règles en passant par le pays le plus laxiste. Nous avons un marché intérieur, il doit être protégé comme tel. Si l'Europe veut rester un espace où les consommateurs sont protégés et où les entreprises qui respectent les règles ne sont pas pénalisées, alors la réponse doit être coordonnée et européenne.
Yvan Verhoogstraete qui suggère une audition des dirigeants de Chine au Parlement européen pour leur demander des comptes sur les multiples infractions constatées au règlement sur les services numériques, un règlement qui prévoit en dernier recours la possibilité de suspendre une plateforme si les manquements n'ont pas été corrigés. La Commission européenne dit ce midi partager les inquiétudes de la France et prendre l'affaire très au sérieux.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles.
Au moins 140 morts et 127 disparus.
Mais aussi des rues envahies par l'eau et la boue, des toits arrachés, des voitures empilées les unes sur les autres. Le bilan ne cesse de s'alourdir aux Philippines après le passage d'un typhon qui menace à présent le Vietnam. Il s'est même renforcé la nuit dernière en provoquant des vagues pouvant atteindre 8 mètres de haut. Et l'explication, bien entendu, reste systématiquement la même, ou quand le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend l'effet phénomènes météorologiques extrêmes toujours plus fréquents, plus destructeurs et plus meurtriers. Alors sans doute les dirigeants d'une bonne partie de la planète n'avaient-ils pas besoin d'une énième catastrophe pour se convaincre de l'urgence à sauver la lutte en faveur du climat. Toujours est-il que c'est dans ce contexte qu'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se retrouvent aujourd'hui et demain à Belém au Brésil pour un sommet en amont de la 30e conférence des Nations Unies sur le climat qui débutera lundi. Sauf que parmi les pays représentés ne figureront pas les dirigeants de 4 des 5 économies mondiales les plus polluantes, la Russie, l'Inde, mais aussi les États-Unis, qui n'ont même pas prévu d'envoyer de délégation, au soulagement d'ailleurs de ceux qui craignaient que l'administration climato-sceptique du président Trump vienne faire de l'obstruction, et enfin la Chine, le premier pays pollueur de la planète. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Culture à Pékin, on le sait, la réduction des émissions de CO2 est la clé de la lutte contre le réchauffement climatique. Or, malgré un déploiement record d'énergie renouvelable, la Chine reste le pays au monde qui émet le plus de gaz à effet de serre, avec d'ailleurs un pic attendu d'ici 2030, et non, Sébastien, d'ici la fin de l'année, comme anticipé précédemment.
Oui, les efforts sont impressionnants en matière d'énergie renouvelable, des panneaux solaires qui recouvrent les déserts du nord de la Chine, des éoliennes installées partout sur le territoire et sur le littoral, et les Chinois qui roulent de plus en plus à bord de véhicules électriques. La Chine est le leader mondial incontesté des énergies vertes, mais pas de quoi remettre en cause la dépendance au charbon. La Chine ne parvient pas à franchir ce cap. La peur de ne plus pouvoir fournir d'électricité à son 1,4 milliard d'habitants. 2025 est même une année noire en la matière, avec des centrales à charbon toujours plus nombreuses à ouvrir, un record de 21 gigawatts mis en service au premier semestre. De quoi peser évidemment sur les ambitions climatiques de la Chine. On pensait que Pékin allait atteindre son pic carbone peut-être dès cette année 2025, mais beaucoup d'experts estiment que désormais ce passage ne sera pas franchi avant 2030. Dans son plan annuel annoncé fin septembre à l'ONU, le président Xi Jinping a semblé entériner ses difficultés en annonçant un objectif considéré comme modeste, une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici 2035. Déception, même si la Chine s'engage sur des chiffres précis, et les Chinois, soucieux de leur image, veillent en général à respecter ce qui a été dit et souvent même font en sorte de dépasser légèrement les objectifs.
Merci Sébastien Berriot. Comme un parfum de crise politique sur fond de débats budgétaires en Belgique, le Premier ministre a fixé aujourd'hui la date butoir pour que ses partenaires de coalition parviennent à s'accorder sur les 10 milliards d'euros d'économies réclamés pour réduire la dette et assainir les finances publiques, faute de quoi il menace de présenter sa démission. L'interminable crépuscule de Cristina Kirchner, déjà condamnée par la justice argentine de la prison à domicile, celle qui fut successivement première dame, puis chef de l'État, doit être jugée à partir d'aujourd'hui dans une nouvelle affaire de corruption présumée, un procès marathon prévu pour durer plusieurs mois et à l'issue duquel elle encourt jusqu'à 6 voire 10 années de prison, ou quand le judiciaire, comme le politique, renvoie l'image d'une opposition péroniste décidément en souffrance. On reparle à nouveau climat, puisqu'il se trouve qu'aujourd'hui même Un rapport de l'OCDE vient démontrer combien la croissance économique, et en particulier dans les pays émergents, est aujourd'hui le principal facteur responsable de la hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui signifie également que la lutte contre le réchauffement climatique paraît de plus en plus compromise. Et d'ailleurs, l'ONU elle-même admet désormais officiellement que l'objectif de réchauffement de 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle sera franchi ces prochaines années. Dans ces conditions, que vont bien pouvoir décider les 170 pays qui participeront à la COP30 lundi prochain? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comme chaque année, à la veille d'ouvrir donc une nouvelle COP, le champ lexical de l'urgence, de la responsabilité est invoqué par le pays organisateur, en l'occurrence le Brésil, pour donner la mesure de l'importance du moment. Est-ce qu'avec la crise du multilatéralisme aujourd'hui de plus en plus exacerbé, le contexte dans lequel s'ouvre cette 30e édition autorise tout de même quelques espoirs?
Moi, je pense que oui, parce que il y a plusieurs pays qui ont tout intérêt à soutenir le multilatéralisme climatique, et notamment parce que c'est leur intérêt bien compris. On l'a vu, la Chine a mis beaucoup d'accent sur le déploiement des énergies renouvelables, des technologies électriques, et elle a besoin que l'ensemble de la planète la suive sur ce sujet-là. L'Union européenne a besoin de sortir des énergies fossiles parce qu'elle est dépendante d'autres pays à ce sujet-là. Et puis, il y a plein de pays qui sont vulnérables. Et donc, il y a vraiment, effectivement, la plupart des questions climatiques sont devenues des questions de stratégie économique aujourd'hui, à la fois pour la Chine ou pour l'Europe. C'est pour ça que c'est si difficile aujourd'hui et que c'est conflictuel. Mais beaucoup de ces pays ont besoin de coopérer pour pouvoir avancer.
La conférence de l'an dernier s'était soldée, disons, par un semi-échec. Qu'est-on en droit d'attendre de cette COP 30 qui marquera les 10 ans de l'accord de Paris, qui devrait donc donner aussi l'occasion de dresser un bilan, sans doute, dans la mise en œuvre des objectifs posés par ce cadre?
Alors effectivement, dans les 10 ans qui viennent de s'écouler avec l'accord de Paris, on a vu quand même se mettre en place ce que l'objectif de long terme de l'accord de Paris, de réduction, d'atteindre la neutralité carbone à la fin du siècle, c'est un objectif qui a embarqué un ensemble de progrès technologiques qui sont en train de complètement bouleverser l'économie mondiale. Je parlais de toute l'électrification de nos usages par le véhicule électrique et d'autres, la place des renouvelables, et c'est cet élément-là qui est en train c'est vraiment un des effets clés de l'accord de Paris. C'est ça qu'on peut revendiquer sur l'accord de Paris. Maintenant, que doit faire cette COP? Premier point, ce que vous soulignez tout à l'heure, soutien au multilatéralisme climatique. Et la 50aine de chefs d'État plus le représentant des autres, ça va être extrêmement important qu'ils soutiennent le multilatéralisme dans ce moment extrêmement conflictuel. Deuxième point, on espère que les chefs d'État et les représentants des pays vont aussi se saisir du fait, vont constater que leurs plans nationaux climatiques sont très ancrés dans leur stratégie économique, ce qui est bien parce que ça veut dire que c'est réaliste, mais qu'en revanche, ils sont insuffisants et il faut qu'ils envoient un signal de coopération sur leur stratégie économique dans cette nouvelle économie qui est en train de naître, où l'électricité va être partout, cette nouvelle économie électrique. Il faut qu'ils envoient un signal de coopération et d'apaisement plutôt que de conflit. Et là, moi, je suis à la fois j'ai un peu d'espoir, mais je suis aussi inquiet parce que dans le conflit avec les États-Unis, la Chine vient d'envoyer un signal sur le contrôle des exportations de terres rares et des technologies associées, qui n'est pas un signal d'apaisement, mais plutôt un signal de montée en conflictualité et d'escalade.
L'année dernière, je me permets de vous couper.
Les pays se disent sur l'économie décarbonée, on collabore.
L'année dernière, un accord à minima, on s'en souvient, avait été adopté donc à l'arraché à l'issue de la COP de Bakou pour déterminer l'engagement financier des pays du Nord envers la transition des pays en voie de développement. Est-ce que ce dossier pourrait être rouvert cette année?
Alors, les Brésiliens et les Azerbaïdjanais ont préparé tout un document qui s'appelle la feuille de route de Bakou à Belém, précisément sur ce sujet qui est un sujet majeur, pour que les pays les plus pauvres, la relation avec les autres pays dans cette histoire climatique, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une crédibilité sur le fait que 200-300 milliards par an qui leur ont été promis de financement qui vont aller du nord vers le sud, on puisse passer à 1300 milliards par an de financement privé ou public. Les Brésiliens et les Azerbaïdjanais ont préparé un document extrêmement précis de tout un ensemble, plutôt par des ministres des Finances qui ne sont pas ceux qui sont représentés à Belém, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais on a là-dessus, je pense, des éléments suffisamment concrets pour espérer que les pays du Sud ne vont pas crier au scandale et dire que l'accord est rompu.
Et on va s'arrêter là, et j'espère qu'on aura bien compris tous vos propos, malgré cette liaison capricieuse. Merci Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Aux États-Unis, la Cour suprême était appelée hier à examiner l'une des affaires les plus explosives de la présidence Trump, l'imposition de droits de douane punitifs à la planète tout entière. Le président américain a-t-il légalement le pouvoir d'utiliser à sa guise, comprenez sans l'accord du Congrès, cet instrument majeur de sa politique économique et diplomatique? Plusieurs juges, progressistes comme conservateurs d'ailleurs, se sont montrés particulièrement sceptiques, voire critiques. En revanche, la Cour n'a pas précisé encore quand elle statuerait. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une perturbation par la façade atlantique qui s'étendra jusqu'au sud du massif central. Partout ailleurs, le ciel devrait rester sec à défaut d'être lumineux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.